Bonjour, chers frères. C'est un plaisir de vous voir tous. Je ne sais pas pourquoi l'humanité a décidé de perdre une heure ce soir. C'est une saison si merveilleuse, la saison du printemps, la fin de l'hiver, le printemps, et puis nous devons jouer avec notre sommeil et nous désorienter tous et ne pas être en mesure de profiter du beau temps du printemps. Vous comprenez donc ce que je pense de la perte d'une heure de sommeil ce soir. Eh bien, mes frères, qui aiment parler du bon vieux temps, qui aiment se remémorer les temps passés, en levant la main, qui aiment se remémorer son enfance, peut-être quand la société semblait meilleure, quand le monde était plus facile, quand nos vies semblaient moins compliquées, quelques hochements de tête, quelques mains levées, c'est ce que nous faisons tous. C'est mon cas, j'aime parler de ma jeunesse, de mon enfance avec mon père dans la jardinerie et des choses que j'ai pu faire, c'était le bon temps. C'était une époque amusante, une époque plus facile. Je me souviens aussi qu'en grandissant, et c'est juste une curiosité de notre nature humaine, nous aimons nous souvenir du passé. Nous aimons nous remémorer les bons moments, mais aujourd'hui, je me trouve au milieu de la quarantaine. Et je pense au bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'était les années 80 et 90. Oui, je viens de me vieillir. Oui, je viens de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, le bon vieux temps, à mon sens, c'est peut-être les années 80 et 90. Mais quand j'ai grandi dans l'église. J'entendais mes parents, j'entendais les autres. Oh, le bon vieux temps. Dans les années 50 et 60. Le bon vieux temps. Les choses allaient mieux à l'époque. Aujourd'hui, tout s'écroule. Mais à l'époque, c'était les années 50. Nous étions bien ensemble. C'est ce que j'ai entendu. Il est intéressant de constater que maintenant, je pense que les années 80 et 90 étaient le bon vieux temps. Non, mes parents m'ont dit que c'était les années 50 et 60. Je n'ai jamais eu l'occasion de demander à mon grand-père, mon oncle, ce qu'étaient les années 20 et 30. Où cela s'arrêterait-il? Jusqu'où remonterions-nous? Qui dirait que c'était le bon vieux temps? Qui dirait que les temps étaient meilleurs? Il est intéressant de voir comment Dieu a façonné nos mémoires, nos esprits. En fait, nous sommes très aptes, nos cerveaux sont très actifs et modifient nos souvenirs, nos expériences pour que le passé paraisse parfois meilleur que ce qu'il était, meilleur que ce qu'il est. C'est ainsi que nous sommes faits. C'est peut-être aussi un peu de la nature humaine qui est en nous et que nous combattons chaque jour. Mais c'est une curiosité. Nous aimons le faire. Cet après-midi, je voudrais examiner ce que Dieu dit à ce sujet. Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de la nostalgie du bon vieux temps? Qu'y a-t-il dans sa parole? Passons à l'Ecclésiaste 7 et au verset 10. Et lisons, peut-être un verset mal écrit, mais lisons ce que Dieu dit. Car c'est pour cela que nous sommes ici, le jour du sabbat, pour en savoir plus sur le mode de vie de Dieu, pour en savoir plus sur la volonté et l'esprit de Dieu. Bien sûr, nous voulons savoir ce qu'il dit à ce sujet. Lisons donc l'Ecclésiaste 7 et le verset 10, ne dites pas que vous. Le verset commence ainsi. Quelle est la raison pour laquelle les anciens jours étaient meilleurs que ceux-ci, car vous ne vous informez pas sagement à ce sujet? Il faut aimer ou ne pas aimer les traducteurs de la King James. C'est un peu gênant. C'est un peu simple si on y réfléchit bien. Mais lisons quelques autres traductions. Commençons par l'English Standard Version. Mais c'est bien ce que nous venons de lire dans la King James. C'est maladroit. Ne dites pas, ne parlez pas comme nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce que les anciens jours valent mieux que ceci? C'est aussi un peu maladroit. Lisons une autre définition ou une autre traduction. Ne dites pas, pourquoi les jours d'autrefois sont-ils meilleurs que ceux d'aujourd'hui? Car ce n'est pas par sagesse que vous demandez cela. C'est un peu différent. Les deux sont un peu différentes. Un peu différent de l'introduction et de la façon dont nous aimons parler du bon vieux temps. La New Living Translation, qui n'est probablement pas l'une de celles que nous consultons souvent, simplifie énormément le texte. Je ne recommande pas de l'utiliser pour étudier, mais elle apporte un peu de lumière. Elle dit tout simplement, ne vous languissez pas du bon vieux temps. Ce n'est pas sage. Donc, si l'on regarde ces trois traductions et la King James, quelle est la cause des anciens jours? Les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. La parole de Dieu dit que nous ne posons pas une question judicieuse. Oh, c'est un peu différent. C'est un peu différent que d'aimer parler du bon vieux temps, du bon vieux temps. J'entends la parole de Dieu ici. Je fais une petite pause. Oh, peut-être que je ne suis pas sage en parlant du bon vieux temps. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais que pouvons-nous en apprendre? Que pouvons-nous développer à travers d'autres écritures? Ce que Dieu dit ici, est ce que nous pouvons tous apprendre. Parce que nous aimons en parler, et oui, il y a des leçons à tirer et des histoires à raconter sur le bon vieux temps. Mais c'est la façon dont nous les considérons. C'est la façon dont nous les élevons et la place qu'ils occupent. Mais où est la pensée de Dieu dans cette affaire? Est-ce qu'il s'amuse à passer en revue mes parents, moi-même, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et à se demander quel était ce bon vieux temps? Allons à la Genèse 2. Il n'y a peut-être eu que le bon vieux temps. C'est cela. Lisons Genèse 2, verset 16. Vous savez tous où je vais. C'est le début. Le bon vieux temps où les bonnes heures n'ont pas duré très longtemps. L'humanité n'a pas gardé les choses là où elles devaient être très longtemps. Allons à Genèse 2 et au verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tu pourras manger librement. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Instruction donc à Adam. Passons au chapitre 3. Nous ne ferons pas tout le récit. Nous savons en principe ce qui s'y est passé. Le serpent, Satan, a parlé à Ève et l'a convaincue de prendre cet arbre et d'en manger. Lisons le chapitre 3 de la Genèse et le verset 6. Techniquement, il ne s'est donc écoulé que très peu de temps entre la création de l'humanité et l'arrivée d'Adam sur cette terre. Lisons le verset 6 du chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à regarder, et que c'était un arbre à désirer pour devenir sage. Elle en prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et s'enfirent des tabliers. Aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Aussitôt, ils virent le bien et le mal s'amuser un peu. Combien de temps a duré le bon vieux temps? Pas très. Très vite, l'homme a pris une mauvaise décision. L'homme est allé à l'encontre des instructions de Dieu et a décidé de suivre sa propre voie. De suivre sa propre voie. Quels ont été les effets de cette décision? Qu'est devenu le monde? Qu'est-ce que le monde est encore aujourd'hui? Qu'a-t-il toujours été? Tournons-nous vers le psaume 14 et le premier verset. C'est ici que le roi David a été inspiré pour écrire ce texte. Des milliers d'années plus tard, à l'époque d'Adam. Et voici le roi David inspiré par Dieu pour écrire quelques versets. et nous apprenons comment Dieu regarde la terre et comment Dieu regarde l'humanité. Le premier verset dit, « L'insensé a dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu, qu'ils sont corrompus. Ils ont fait des œuvres abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Le Seigneur regarde du haut des cieux les enfants des hommes, pour voir s'il y en a qui comprennent et qui cherchent Dieu. » C'est ici que l'Ecclésiaste 7, 10, en regardant les temps passés, en regardant ici les temps passés quand David a écrit cela, que dit Dieu ? Ils ont tous disparu en Sion. Ils sont tous devenus sales. Il n'y a plus personne qui fasse le bien, pas un seul. Eh bien, c'était le bon vieux temps à l'époque du roi David. Oui, bien sûr, il y a eu de bons moments sous le règne du roi David, mais qu'en est-il de l'humanité ? L'humanité ne voyait pas Dieu, ne voulait pas voir Dieu, ne pouvait pas voir Dieu. Allons à Romains 3 et au verset 10. Ici, Paul cite l'Ancien Testament, cite ce que nous venons de lire, et nous le verrons un peu plus loin. C'est un bon verset, à l'approche de la Pâque et de sa préparation, pour revoir où nous en étions. Nous allons également nous demander où en est l'humanité. Où est toute l'humanité qui n'a pas eu l'opportunité que nous avons eue d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les yeux pour voir la vérité, pour voir la voix de Dieu? Lisons Romains 3 et le verset 10. Il est écrit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Ils sont tous sortis du chemin. Ils sont tous ensemble devenus inutiles. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas un seul. Poursuivant au verset 13, leur gosier est un sépulcre ouvert, leur langue est une tromperie. Leur aspic empoisonné est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont prompts à répandre le sang, la destruction et la misère sont dans leurs voies, les voies de la paix, ils ne les connaissent pas. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'était nous avant d'être appelés. C'est le monde d'aujourd'hui. Cela a toujours été le cas de toute l'humanité. C'est pourquoi nous sommes invités à rechercher la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas de poser des questions sur les temps passés, ni de glorifier les temps passés, ni de dire qu'ils étaient meilleurs qu'aujourd'hui parce que, malheureusement, tous ceux qui ont jamais vécu ont été dans cet état. Et peu importe, nous pouvons tous nous en souvenir, ils ne sont pas appelés. Ils sont donc dans cet état. Peu importe l'apparence, peu importe la qualité, toute l'humanité était encore dans cet état. Peut-on appeler cette époque le bon vieux temps ? Il y a une façon de voir les choses. Oui, cette époque est meilleure qu'aujourd'hui. Parce que si l'on remonte à l'époque où il y avait 1 milliard de personnes sur Terre, il n'y avait alors 1 milliard de personnes sur Terre qui ne cherchaient pas Dieu. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de personnes qui ne cherchent pas Dieu. C'est pire aujourd'hui parce que nous sommes plus nombreux. La situation n'était pas vraiment meilleure à l'époque où à chaque fois que l'homme tout entier ne cherchait pas Dieu. Revenons au verset. Dieu nous demande, pourquoi demandez-vous cela ? Pourquoi dites-vous que les jours passés étaient meilleurs ? Vous n'êtes pas sages. L'Esprit de Dieu est intéressant ici. Passons à Matthieu 12 et au verset 34. C'est Christ qui s'adresse aux pharisiens à une autre époque. Il est vrai qu'il n'y a pas d'écrit pour tous les âges entre les trois périodes que nous examinons dans cette section, mais nous savons ce qu'il en est entre les deux. Nous savons par ces écritures, bien sûr, que l'humanité est coupée de Dieu. Comment l'humanité peut-elle être bonne ? Comment peut-il y avoir de bons jours ? Dans Matthieu 12 et au verset 34, ici, Christ, encore une fois, comme je l'ai mentionné, parle aux pharisiens, ô génération de vipères, comment pouvez-vous être mauvais et dire du bien ? car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il parlait de la génération qui se trouvait devant lui, la génération qui était là. Bien sûr, cela s'applique à tous ceux qui lisent ceci, dans une certaine mesure, à toutes les générations. Au verset 38, alors un des scribes des pharisiens. Encore un passage que nous voulons lire ici. Prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Fais-nous donc un signe. Il leur répondit. Christ leur dit. Une génération méchante et adultère cherche un signe. Il n'y a pas d'autre signe que celui de Jonas. Ce que je veux dire en lisant ce passage, c'est qu'ici, Dieu, Christ dans la chair, interpelle la génération qui se trouve devant lui. Vous êtes une génération mauvaise et adultère. Nous avons appris dans l'Épître aux Romains que lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, personne ne le cherche. Mais ce qui est intéressant ici, si vous regardez le verset 33, pour donner un peu plus de contexte, c'est que soit vous rendez l'arbre bon et son fruit bon, soit vous rendez l'arbre corrompu et son fruit corrompu, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Combien de livres d'histoire pourrions-nous lire? Combien de recherches pourrions-nous faire en ligne et examiner le bilan de l'humanité au cours des 6000 dernières années? Regardez l'abondance, les fruits abondants qu'il y aurait là. Il serait difficile de retrouver le bon vieux temps. Le fruit de l'humanité qui est coupé de Dieu et qui suit sa propre voie, faisant le bien et le mal. Oui, il y a de bons moments, mais ils sont coupés de Dieu. Quel est le fruit qui a été montré? Les livres d'histoire sont pleins, et Christ est ici d'une certaine manière, de mauvais fruits de l'humanité essayant de vivre sans les instructions de Dieu. Elle a essayé de vivre sans la loi et la voix de Dieu. Le monde a toujours vécu une période de malheur. Le monde a été coupé de Dieu. Revenons à l'Ecclésiaste, dans notre esprit, ce verset, en regardant les temps passés, Dieu dit qu'il n'est pas sage de le faire. Il n'était pas meilleur. Nous apprenons pourquoi. Ici, allons à la 19e Genèse. Et dans un contexte apparenté, c'est plutôt l'attitude. C'est plutôt l'objectif. L'objectif erroné que l'on peut avoir en regardant l'histoire ou en glorifiant les jours passés. D'une certaine manière, nous regardons en arrière vers ce monde. Passons à Genèse 19 et au verset 23, parce que, dans le même ordre d'idées, nous allons lire l'histoire de Lot et de sa femme dans Genèse 19. Il s'agit d'une situation immédiate. Ils ont fui Sodome et Gomorrhe, Dieu les a sortis de là et a continué à les détruire, à détruire ces villes, mais c'est l'attitude qu'a eue la femme de Lot. Lisons juste pour avoir un peu de contexte. Verset 23. Le soleil était levé sur la terre quand Lot entra dans Soar. Là où il est allé pour fuir. Le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et tout ce qui poussait sur le sol. Mais sa femme regardait derrière lui, et elle devint une statue de sel. D'une certaine manière, elle s'est donc tournée vers les villes. Peut-être que dans son esprit se trouvaient de bons vieux souvenirs. Elle s'est tournée vers ces villes et que s'est-il passé? Un exemple de regard en arrière avec la mauvaise attitude. Dans son cas, elle s'est tournée vers le bon vieux temps avec nostalgie, et elle est immédiatement devenue un pilier de sel. Allons au verset 32 de Luc 17, un verset court, et je veux le replacer dans son contexte. Il est étonnant de voir pourquoi ce verset se trouve ici, comment il se rapporte à notre sujet, comment il est un avertissement pour nous, et comment il implique notre nature humaine. Luc 17, verset 32, c'est simplement quatre mots, trois mots, « Souviens-toi de la femme de Lot ». Mais lisons le verset 31. Cet événement, quand il se produit, pour être dans un futur proche, pour être une certaine partie de l'itération qui a été expliquée. Mais dans tous les cas, c'est plus tard, peut-être que nous n'avons pas à en faire l'expérience directement nous-mêmes. Et si nous ne le faisons pas, nous devrons l'enseigner. Donc, si nous devons enseigner à ce sujet, nous voulons le savoir. Lisons donc le contexte ici, comment Dieu a inspiré au milieu de cette image, ou juste après le verset 31, Dieu se souvient de la femme de l'eau. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descendra pas pour les emporter. Et celui qui sera dans les champs, qu'il ne revienne pas non plus. C'est donc le moment de fuir, le royaume arrive, Christ revient, les événements se déroulent, c'est le moment de partir. Il est temps de faire, il est temps d'agir. Et que nous rappelle Dieu? Souvenez-vous de la femme de l'eau. Rappelez-vous, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas par-dessus votre épaule. Mais ce qui donne à réfléchir, ce qui me donne à réfléchir, c'est que dans une situation comme celle-là, nous avons besoin de cet avertissement. Dans une période comme celle-ci, l'humanité aura besoin qu'on lui rappelle que c'est toujours une possibilité. C'est toujours une possibilité de regarder par-dessus nos épaules. Cela s'ajoute à l'image que le verset maladroitement écrit dans l'Ecclésiaste nous montre, en posant des questions sur les temps passés. Je trouve incroyable que Dieu ait besoin de mettre cela là. Dans un tel événement, si nous étions sur le toit, nous devrions fuir, nous devrions aller, nous devrions agir. Et Dieu nous rappelle de ne pas regarder en arrière. C'est incroyable. Cela donne à réfléchir, mais devrait aussi être très stimulant pour nous tous. Lorsque nous regardons le monde et la situation dans laquelle il se trouve depuis 6000 ans, nous voyons une mise en garde contre le fait de regarder en arrière, de se tourner vers des temps révolus. Où en sommes-nous, vous et moi, aujourd'hui? Où en sommes-nous sur le plan spirituel? Où devrions-nous être? Allons à Éphésiens 4 et au verset 20. Où devrions-nous nous concentrer? Nous commencerons à lire ce texte dans Éphésiens 4 et au verset 20. En fait, nous commencerons au verset 21. Éphésiens 4, verset 21. Si vous avez entendu parler de lui et si vous avez été enseigné par lui, comme la vérité est en Jésus, afin que vous abandonniez votre ancienne conduite. Donc l'ancienne conduite, le vieil homme qui est corrompu selon les convoitises trompeuses. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. En fin de compte, c'est pour revêtir pleinement, pour revêtir l'homme véritable qui est créé dans la justice que notre corps sera changé. Mais au moment du baptême, le vieil homme est mort, il est enterré. Nous devons continuer et grandir. Nous avons un peu entendu parler de l'endroit où nous devons grandir. Dans le premier message, nous devons continuer et grandir. Nous devons nous débarrasser du vieil homme. Une chose que je sais personnellement, c'est que certains de mes bons vieux jours, ou beaucoup de mes bons vieux jours, étaient des PC. PC, est-ce que c'est verset 25, verset 21? Avant JC. Parfois. La dyslexie s'empare de vous et vous vous retrouvez avec un PC. J'allais faire une blague sur un parti politique canadien qui n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, avant JC. Avant la conversion. N'est-ce pas? N'est-ce pas un peu comme le bon vieux temps parfois? Avant JC, pour nous, avant la conversion. Je sais que certains d'entre eux le sont pour moi. Quel est le verset que nous venons de lire? Nous devons nous éloigner de nos anciennes conversations. Nous débarrasser de notre ancienne conduite. Et revêtir l'homme nouveau. Revêtir les fruits de l'esprit et grandir. Passons au psaume 103 et au verset 12. Où nous en sommes? Quelle distance nous devrions avoir par rapport à ce bon vieux temps? Un passage des Écritures est bon à rappeler alors que nous approchons des jours saints du printemps et que nous nous y préparons. Il s'agit du psaume 103 et du verset 12. Nous finirons par le trouver. 103 et verset 12. Nous y sommes. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, aussi loin que Dieu a éloigné de nous les jours de la Colombie-Britannique. Sur tous les mauvais côtés. Dans quelle mesure devrions-nous regarder en arrière et dire, oh, le bon vieux temps est meilleur qu'aujourd'hui? Je voudrais poser une question à ce stade. La génération dans laquelle nous sommes. Mais quelle est la meilleure époque pour être en vie? Le meilleur moment pour respirer sur cette terre? C'est lié. C'est lié à notre vocation. Où est-elle? Quand cela se passe-t-il? J'ai brossé un tableau assez sombre des 6000 dernières années. Un tableau assez sombre de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voyons ce qu'il en est et réfléchissons à un peu d'espoir. Quel est le meilleur moment pour être en vie? C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est cette génération. Si Dieu nous dit de ne pas regarder le passé et de ne pas dire que le passé est meilleur qu'aujourd'hui, quelle est la meilleure raison pour laquelle il dirait cela? Nous sommes la génération qui voit arriver le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur terre. Nous voyons Christ revenir. Pourquoi voudrions-nous regarder vers d'autres temps? Oui, cette génération est horrible. Oui, la société qui nous entoure est un désastre. Mais nous sommes la génération qui voit le royaume de Dieu venir sur terre. Y a-t-il un autre moment où nous voudrions être en vie? Y a-t-il une autre époque où nous voudrions être sur terre? Voudrait-on revenir aux années 80? C'était il y a 40 ans. Désolé de le mentionner. C'est il y a 40 ans. Cela ferait 40 ans à remonter. Rajouter du poids au royaume de Dieu. Quelqu'un veut-il le faire? Choisissez votre chiffre. Aucun d'entre nous ne voudrait ajouter des années entre aujourd'hui et le moment où le royaume de Dieu viendra. Ajoutez cela au tableau que nous peignons en demandant de ne pas parler des anciens jours. Nous valons mieux que cela. Un point secondaire, le physique, et c'est ce qui peut arriver à notre époque, peut être difficile pour nous. Nous vivons à une époque qui, à bien des égards, peut être considérée comme la meilleure de toutes les époques. Oui, les nouvelles sont horribles. Oui, la société est mauvaise, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, à quelle vitesse pouvez-vous l'obtenir? Et je dis bien n'importe quoi. Vous avez besoin d'un rasoir. Vous pouvez aller chez Giant Eagle et l'acheter. Si vous n'aimez pas leur marque, vous pouvez aller le chercher chez Target, de l'autre côté de la rue. Si vous n'aimez pas ces deux magasins, vous pouvez aller chez Walmart. Et si vous n'avez jamais voulu sortir de chez vous, vous pouvez demander à Amazon de vous livrer le produit devant votre porte. Dans quel monde stupide vivons-nous? En un sens, dans quel monde extraordinaire vivons-nous? Et parfois, le monde étonnant qui nous entoure, il y a tant de choses dont nous pouvons parler. Oui, nous croyons en Dieu pour notre guérison. Regardez le système de santé dont nous disposons. Si quelqu'un est blessé, une ambulance arrive, l'emmène et l'emmène pour qu'il soit réparé. Il y a 100 ans, que se serait-il passé? Les choses ne se seraient peut-être pas terminées aussi bien qu'aujourd'hui. Nous le savons grâce aux statistiques, que vous pouvez consulter. La pauvreté n'a jamais été aussi faible. Le taux d'alphabétisation n'a jamais été aussi élevé. Les voyages n'ont jamais été aussi faciles. Monsieur Garbe et Madame Garbe reviennent tout juste de Nouvelle-Zélande. Et tout ce qu'ils ont eu à faire, je simplifie à l'extrême leur voyage parce que je sais que c'est un voyage ardu que de prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la Terre. Mais tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de rester assis dans l'avion pendant 18 heures. Ils se sont donc assis, ont probablement regardé quelques films, lu quelques livres, et se sont envolés vers l'autre côté de la Terre. Ils sont allés jusqu'à l'autre côté et sont revenus. Et tout ce qu'ils avaient à faire physiquement, c'était de s'asseoir pendant 18 heures. Essayez de faire cela il y a 100 ans. Essayez de faire la même chose il y a 200 ans. Choisissez une autre époque de l'histoire de l'humanité et essayez de voyager de Wadsworth, Oyon à Auckland, Nouvelle-Zélande. Ce serait impossible. Ce serait un voyage légendaire si nous étions à une autre époque. Mais tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de regarder quelques films et probablement d'être nourris. Combien d'autres choses y a-t-il? Mais cela montre que nous vivons à une époque extraordinaire. Et la partie la plus étonnante de l'époque dans laquelle nous vivons est que Dieu va amener son royaume. Oui, ce monde est en train de s'effondrer. Oui, ce monde, la société, les mœurs sont mauvais. Les nouvelles sont difficiles à lire, mais nous savons ce qui se prépare. Et nous savons aussi qu'au cours des 6000 dernières années, les choses n'ont pas vraiment changé. L'humanité n'a jamais cherché Dieu. Mais voici de quoi ajouter à l'espoir. Si nous vivons dans la plus grande génération à voir arriver le royaume de Dieu, que fera Dieu à l'avenir en ce qui concerne les souvenirs? Nous l'avons souvent entendu. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, mon esprit physique. Allons à Ésaïe 65 et au verset 17. Que fera Dieu dans l'avenir? D'une certaine manière, oublions de parler de ce monde, de tous les gadgets et de toutes les choses que nous pouvons faire. Que fera Dieu? Revenons à la recherche de l'Esprit de Dieu, à la recherche de la sagesse de Dieu sur cette question qu'il nous a exposée dans l'Ecclésiaste. Ésaïe 65, verset 17. Ici, c'est simplement le moment où les nouveaux cieux et la nouvelle terre arrivent. Car voici que je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle, et l'on ne se souviendra plus de ce qui existait auparavant, on ne s'en souviendra plus. On nous a expliqué que les souvenirs seront effacés. Nous lisons dans d'autres versets qu'il n'y aura plus de larmes. Les larmes s'arrêteront. Que fera Dieu? Dieu prendra un point dans son plan pour toute l'humanité et il effacera tous nos souvenirs. Quel est le rapport avec le fait de parler du bon vieux temps? En fait, Dieu va retirer à l'humanité la possibilité de le faire. La sagesse de Dieu en la matière est étonnante quand on la considère sous cet angle. Nous aimons peut-être ce bon vieux temps, nous aimons en parler, mais nous en avons tiré des leçons. Il y a des leçons que nous avons appliquées et que nous pouvons enseigner aux autres sur l'attitude que nous avons, que nous pourrions avoir, que l'avertissement est que nous avons parlé de la façon dont nous regardons ces jours passés. Examinons quelques passages des Écritures qui nous encouragent à regarder vers l'avenir, à savoir ce que Dieu veut que nous fassions et où nos yeux doivent se porter. Passons au Proverbe 4 et au verset 25. Proverbe 4 et verset 25. Et ici, si nous ne devons pas regarder vers le passé, nous ne devons pas dire que le passé est meilleur que l'avenir. Nous savons que dans le présent, nous sommes dans une grande voie, le plus grand temps qu'il y ait jamais eu à vivre parce que le royaume de Dieu va venir. Où nos yeux doivent-ils se porter? Où devrions-nous regarder? En un sens, de quoi devrions-nous parler? Tout d'abord, lisons les Proverbes 4 et le verset 25. Que tes yeux regardent droit devant. que tes yeux regardent droit devant. Cela me rappelle l'écriture de l'homme derrière la charrue. Si vous regardez en arrière pendant que vous labourez, vous n'êtes pas fait pour le royaume. Ici, dans les proverbes, que tes yeux regardent droit devant. Que tes yeux regardent droit devant toi. Que tes paupières regardent droit devant toi. Regarde vers le royaume. Examine le chemin de tes pieds et affermis toutes tes voies. En vivant la loi de Dieu, en utilisant le livre qui est devant nous comme un livre d'instruction, réfléchissez à toutes les voies de vos pieds et toutes vos voies seront établies en suivant les instructions qui s'y trouvent. Au verset 27, ne te tourne ni à droite ni à gauche. Retire ton pied du mal. Il n'est pas dit de regarder en arrière, je m'en rends compte, mais au verset 27, ne tourne ni à droite ni à gauche. Si vous faites un virage, vous n'allez plus tout droit. Une fois que vous avez fait ce premier virage, il est très facile de faire un deuxième virage, à gauche et à gauche. De quel côté te diriges-tu alors? De quel côté regardez-vous? Ou bien à droite et à droite? Vous revenez en arrière. Vous regardez par-dessus. Laissez vos yeux regarder droit devant vous. Laissez vos paupières regarder droit devant vous. Passons à Philippiens 3 pour voir où notre esprit devrait se concentrer, où nos yeux devraient être fixés, où notre esprit devrait être occupé. Ce n'est pas nécessairement le bon vieux temps, à moins qu'il y ait des leçons à tirer et des choses à apprendre, bien sûr. Il y a toujours de bonnes histoires à raconter. Mais dans Philippiens 3 et au verset 13, nous lisons à nouveau Paul. Frères et sœurs, je ne me considère pas comme ayant compris, mais je fais une seule chose, j'oublie ce qui est en arrière et je tends vers ce qui est en avant. Ainsi, par l'intermédiaire de Paul, Dieu nous donne des instructions pour que nous oublions les choses du passé. Cela ressemble beaucoup à l'Ecclésiaste 7 et 10, d'une certaine manière. Et tendre vers les choses qui sont devant nous. Donc les choses qui sont devant nous, les choses qui sont à venir. Verset 14, je m'efforce d'atteindre le but, le prix de la haute vocation de Jésus-Christ. C'est Paul qui dit ce qu'il fait, qui nous exhorte, qui nous encourage à faire exactement la même chose, à nous efforcer d'atteindre le but, le prix de l'appel élevé de Dieu et de Jésus-Christ. Un appel élevé à faire partie de la famille de Dieu. L'appel élevé à faire partie du royaume de Dieu lorsqu'il viendra sur terre. C'est sur cela que nous devons nous concentrer. Oubliez les choses qui sont derrière nous, oubliez de regarder par-dessus nos épaules, oubliez de nous souvenir à tort du bon vieux temps. Passons à l'Ecclésiaste 7 et au verset 10. Ecclésiaste 7 et verset 10. C'était quelque part entre le 10e et le 7e verset, ce qui n'aurait pas aidé la situation ici. Ecclésiaste 7 et verset 10. Lisons-le encore une fois. Ne dites-vous pas, pourquoi les anciens jours ont-ils été meilleurs que ceux-ci? Pour que vous ne vous informiez pas sagement à ce sujet. Nous avons parcouru les Écritures cet après-midi. Nous avons élargi l'image que Dieu donne dans ce verset. Nous avons développé ce que la New Living Translation rend un peu trop simple. Ne vous languissez pas du bon vieux temps. Ce n'est pas sage. Frères et sœurs, nous avons appris aujourd'hui ce qu'est la pensée de Dieu. Nous avons appris quelle est la sagesse de Dieu en la matière. Nous avons vu que les 6000 ans ont été une humanité coupée de Dieu, une humanité qui n'a pas eu l'occasion de se convertir, et des âges qui n'ont pas vraiment connu le bon vieux temps, les bons moments. C'est ce que nous avons vu cet après-midi. Nous avons vu des avertissements sur le fait de regarder en arrière et sur l'attitude que nous pourrions avoir lorsque nous regardons trop en arrière, sur l'effet que cela a eu et sur le fait que cela fait partie de notre nature humaine, et sur l'avertissement que cela constituera pour ceux qui, à l'avenir, s'enfuiront par les toits. Nous devrons nous rappeler de ne pas regarder en arrière, de ne pas aspirer à ces choses dans ce monde, de ne pas aspirer au bon vieux temps. Nous avons vu où nous en étions dans notre baptême et dans notre vocation. Le vieil homme est mort et enterré, et nous devons grandir et revêtir l'homme nouveau. Mais ce bon vieux temps peut malheureusement se situer dans l'ère avant JC de nos vies, l'ère d'avant la conversion. Nous avons appris que nous vivons dans la plus grande génération qui ait jamais vécu et qui vivra jamais. Nous avons la plus grande opportunité. Car que verrons-nous au cours de notre vie? Que pourrions-nous voir au cours de notre vie? Que verrons-nous? L'avènement du royaume de Dieu sur cette terre. Comment pouvons-nous choisir? Comment pouvons-nous parler ou penser qu'il y a une autre époque qui est meilleure qu'aujourd'hui? Meilleure et ensuite meilleure que ce qui est à venir? Le royaume de Dieu. Ce but vers lequel Paul s'est efforcé de tendre, ce but vers lequel nous devons tous nous efforcer de tendre. Alors, frères, lisons-le encore une fois. Ne dites-vous pas que c'est à cause de cela que les anciens jours ont été meilleurs que ceux-ci, car nous ne nous informons pas sagement à ce sujet. Frères et sœurs, appliquons ce que nous avons appris aujourd'hui et apprenons à être sages.